je suis pour les libertés parce que je pense que dans notre système économique et social, la liberté permet d'accéder à une plus grande égalité. Je ne suis pas pour autant pour la disparition de l'État. C'est-à-dire que, c'est d'ailleurs même la formule qu'avait le socialiste italien qui disait, c'est faire rentrer la liberté dans la maison des pauvres. C'est ça le socialisme. Bon, donc je pense que la clé, par la liberté, par des ouvertures, c'est de redonner des égalités d'opportunités.
La grande table, deuxième partie, toute l'actualité des idées ensemble jusqu'à 13h30. Au programme aujourd'hui, êtes-vous pour la liberté? Et si oui, laquelle? Avec le philosophe Michael Fossel, professeur de philosophie à l'école polytechnique, membre de la revue Esprit. Il questionne depuis longtemps les promesses non tenues de la modernité, pour paraphraser Habermas. Il est également directeur de collection aux éditions du Seuil. Dans l'avenir de la liberté, au PUF, il s'attache à comprendre pourquoi on a placé la philosophie au centre de l'histoire et la liberté au cœur de la philosophie, à partir de trois figures, Rousseau, Kant et Hegel. En 80 ans, de 1750 à 1830, de Rousseau à Hegel, donc, quel tournant pratique s'est opéré? Comment la philosophie a-t-elle changé d'objectif et est-elle passée de l'interprétation du monde à sa transformation? Aujourd'hui, comment ces efforts de définition peuvent-ils aussi nous aider à repenser notre rapport à nos libertés, tendre vers une exigence d'autonomie renouvelée? De tout cela, on va tenter de parler avec vous, Michael Fossel. Jusqu'à 13h30, bonjour.
Bonjour.
La liberté fait-elle partie de ces promesses non tenues de la modernité? Ça, c'est à voir. Jusqu'ici, on peut quand même plutôt aujourd'hui se demander si la liberté, toujours pour paraphraser Habermas, ne serait pas devenue une promesse non tenue du libéralisme?
En tout cas, il ne faudrait pas admettre sans en discuter que le libéralisme dit de la liberté tout ce qu'il y a à en dire. Et de ce point de vue, les trois auteurs que vous avez cités et que j'étudie, Rousseau, Kant et Hegel, ont cette particularité que ce sont vraiment tous les trois, à des niveaux différents, des grands penseurs de la liberté et de la liberté moderne, mais qu'aucun d'entre eux ne peut être simplement considéré comme un libéral parce qu'ils se font de la liberté une conception, je dirais, avant tout politique et non pas simplement individuelle. Donc il y a dans le champ politique le lieu même de la libération ou de l'émancipation, c'est la politique pour eux, et par conséquent on ne peut pas simplement considérer ce qui est la tendance libérale, respectable au demeurant, on ne peut pas simplement considérer que la liberté est un donné qu'il faut simplement préserver, qu'il faut garantir par des droits. La liberté, on ne peut y accéder que par une délibération politique, et en fait elle est une réalité politique et collective avant d'être simplement une réalité sociale ou une réalité économique.
Alors rapidement, où est la rupture avec Rousseau? La liberté sans l'arbitraire de la raison, c'est l'autonomie, une autonomie qui n'est pas imposée d'en haut, mais que le sujet se construit de l'intérieur. La liberté comme horizon de la pensée politique, vous l'évoquiez, et de l'action, juste pour Rousseau, pour s'émanciper de tout ce qui nous a servi. Après Rousseau, quel nouveau regard les philosophes vont-ils poser sur le monde et sur cette liberté qu'il a lui-même redéfinie?
Ce qui se passe d'assez fulgurant en réalité à partir de Rousseau et dans cette période qui va à peu près jusqu'à la moitié du 19e siècle, c'est que la liberté devient l'idée principale de la philosophie, hein, c'est-à-dire au fond que le Dieu ou l'âme, qui étaient les idées de la métaphysique classique, sont un petit peu, non pas mises de côté d'ailleurs, mais subordonnées à l'idée de liberté. L'idée de liberté, elle n'est pas simplement définie par ses penseurs comme une caractéristique de l'homme, hein, on n'a pas attendu Rousseau pour dire ou pour affirmer que l'homme était libre, mais on a attendu Rousseau et surtout les deux philosophes qui le suivent, Kant et Hegel, pour considérer que à partir de cette idée de liberté, on allait pouvoir reconfigurer l'ensemble du savoir humain. C'est-à-dire que la philosophie, ou plutôt même la raison, ne sont plus l'autre de la liberté, mais que c'est à partir d'une certaine définition de la liberté, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est l'autonomie, que l'on peut repenser en fait le savoir. Parce qu'évidemment, quand on dit l'homme est libre, en règle générale, on en déduit que la liberté est une capacité d'arbitraire, d'irrationnel. Être libre, c'est pouvoir inscrire dans son expérience toute une série d'actes qui peuvent être soit mauvais, soit totalement délirants d'une certaine manière. Et les philosophes dont je me réclame dans ce livre sont des philosophes qui vont renverser la charge de la preuve et dire qu'au fond, sans liberté, liberté définie comme autonomie, il n'y a pas de rationalité possible. Et c'est cette alliance très particulière, un petit peu mise à mal par l'histoire qui a suivi, celle du XXe siècle en particulier, cette alliance très particulière entre la liberté et la raison qui m'a semblé intéressant de rappeler et d'explorer aujourd'hui.
Kant va arriver ensuite, après, et il nous dit, sur ce fameux couple sécurité-liberté, la sécurité ce n'est pas l'ordre social, la liberté ce n'est pas l'anarchie. Kant qui qualifie de paix des cimetières, vous reprenez cette belle formulation, la tranquillité apparente sous les régimes autoritaires, un monde sans liberté est peut-être ordonné, mais il est mort comme monde, résumez-vous. Est-ce que c'est pas le paradoxe aussi de nos sociétés aujourd'hui, des sociétés très libérales, ultra-libérales, néo-libérales, qui sont en même temps des sociétés très sécuritaire, en tout cas avec un fort appétit, un fort désir, une forte demande de sécurité.
Bah parce que le néolibéralisme privilégie en réalité une seule figure de la liberté, qui est la liberté dans sa dimension économique, disons la liberté d'entreprendre, et dont on considère que si elle est accordée à tous, elle créera une égalité d'opportunité. J'entendais cela tout à l'heure dans le discours du président. Alors évidemment, le choix de la liberté d'entreprendre comme alpha et oméga de la liberté humaine, cette réduction de notre capacité de choisir à notre capacité de calculer. En réalité, elle est totalement étrangère aux auteurs qui m'intéressent ici, mais surtout, elle produit une sorte d'habitus, une sorte d'éthos qui, à mon sens, est tout à fait lié à la demande sécuritaire, parce que la liberté d'entreprendre, elle est fondée sur la mise en concurrence généralisée, ou plutôt elle produit d'ailleurs une mise en concurrence généralisée des vies, et par conséquent, cette mise en concurrence, ou cette valorisation du risque, implique aussi une demande de garantie, une demande sécuritaire. Ce qui fait qu'il me semble que le libéralisme traditionnel, pour le coup, politique plutôt que économique, était beaucoup mieux avisé d'inscrire la liberté dans le domaine du droit, plutôt que d'emblée de l'envisager comme une réalité purement économique, comme si le seul et unique ou le dernier domaine, le dernier lieu dans lequel les individus peuvent faire valoir leur liberté d'initiative était le marché.
Une demande de sécurité ou une demande de protection ?
Alors, une demande de protection dès lors qu'on envisage encore que la liberté soit un enjeu collectif. Moi, je ne suis évidemment pas opposé aux protections, mais bien évidemment, la liberté d'entreprendre, c'est une liberté d'abord individuelle. Et l'individualisation de la liberté, elle mène aussi à une demande de sécurité individuelle. C'est le mécanisme de l'assurance ou d'autres types de, disons, de management du risque ou de contrôle du risque. Ce qui fait qu'au fond, on a tout de même aussi un effet d'atomisation par la liberté strictement économique. Je dirais, pour résumer un peu de manière forcément schématique, que la liberté des libéraux, c'est la fameuse définition, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc une conception, disons, qui met en son centre l'individu séparé des autres et qui aussi, et c'est aussi un lien avec la sécurité, peut envisager les autres comme une menace pour sa propre liberté. La liberté, alors je sais comment l'appeler, disons l'autonomie, pensée par Rousseau le premier, dirait plutôt la liberté des uns commence là où commence celle des autres. C'est-à-dire que la liberté, en fait, c'est fondamentalement une dimension politique de l'action et qu'on ne peut pas être libre seul dans un monde qui est entouré de servitudes ou entouré même de ou constitué même par des concurrences.
On va reprendre ce que vous dites, ce que vous avez dit. Bon, on a posé le paradoxe d'aujourd'hui, libéralisme sécuritaire. Vous avez associé la notion de liberté à la notion de politique, à la notion de collectif. Donc, est-ce qu'il n'est pas normal, quand le libéralisme individuel triomphe, que la politique s'étiole en tant que visée collective, est-ce qu'il n'est pas normal que l'aspect de liberté décroisse et qu'on en arrive à cette politique sécuritaire? Est-ce qu'il y a, selon vous, un lien, une conséquence, un lien de cause à effet entre les deux phénomènes?
C'est tout à fait normal, mais ça n'est pas pour autant souhaitable. Il y a un lien de cause à effet, me semble-t-il, parce que la liberté, c'est un fait aussi qu'on remarque d'ailleurs, non seulement en France, mais dans tous les pays occidentaux, du moins aujourd'hui, la liberté, elle fait l'objet de sentiments extrêmement ambivalents. C'est-à-dire que la liberté, on la désire, on la proclame, mais bien souvent aussi, on la vit ou on la subit comme une charge. Et moi, il me semble que dans l'une des raisons pour lesquelles nous sommes un peu aujourd'hui fatigués de la liberté, au fond, on voit bien d'ailleurs que toutes les mesures qui ont été prises en France et ailleurs, en termes, disons, de restriction des libertés sur un plan juridique, en particulier les mesures liées au terrorisme, il n'y a pas tellement de réaction forte dans l'opinion publique. Ce que j'interprète pour ma part, non pas tellement comme un soutien à ce genre de mesures, mais plutôt comme une espèce de lassitude à l'égard de la liberté, voire une crainte à son égard. Il me semble que cette crainte, on peut aussi l'expliquer par le fait que la liberté, dès lors qu'elle est devenue fondamentalement liberté d'initiative, liberté d'entreprendre, crée chez les individus aussi une forme, disons, de souffrance, ou en tout cas d'inquiétude, de stress parfois, parce que, évidemment, la manifestation première de cette liberté d'entreprendre, c'est la mise en concurrence des vies. Autrement dit, si la liberté, c'est seulement la liberté néolibérale dans son champ économique, elle produit tellement de perdants qu'il est à craindre que ces perdants finissent par ne plus aimer non plus liberté elle-même au sens politique, cette fois-ci, du terme. Et par conséquent, je n'opposerai pas du tout liberté et égalité au sens social du terme. J'aurais plutôt tendance à constater, simplement d'ailleurs, que plus les inégalités s'accroissent, moins le goût pour la liberté est fort. Et de ce point de vue-là, le retour, par exemple, à ce que disait Rousseau, qui est le grand penseur de, non pas tellement de l'unité entre liberté et égalité, mais du caractère réciproque de ces deux notions, me paraît utile.
Être libre nécessite d'être proactif, et ça, c'est vrai que ça peut être fatigant. C'est peut-être ce qui explique que nous ayons accepté si facilement l'inscription dans le droit commun de l'état d'urgence encore récemment. Retour sur ce couple contrarié, liberté-sécurité, avec François Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, représentant de la LDH. Il était l'invité récemment de la Grande Table et il se livrait autour de cette table à un fervent plaidoyer pour la liberté à l'occasion de la parution de son essai Pour la liberté aux éditions Talendier.
Quand on parle du couple sécurité et liberté, d'abord on fait comme si c'était antinomique. Hein. Je veux dire, le rêve de notre démocratie politique, c'est que les deux vont ensemble, la liberté et la sûreté. C'est le rêve de notre démocratie politique. On peut choisir d'y renoncer parce que 300 criminels font sauter une boîte de nuit. On peut choisir de renoncer au rêve de notre démocratie politique, celui qui nous anime. Mais j'aimerais qu'on le sache et qu'on ne se paye pas de mots. Et puis le deuxième élément, c'est... Il y a un tiers dans ces affaires, entre les individus, le corps social, entre les individus et les terroristes, qui est sans cesse oublié par les Français, c'est l'État. En réalité, quand on augmente la partie sécurité, ce qu'on augmente simplement, c'est le pouvoir de l'État sur chacune de nos vies, à nous qui ne sommes pas des terroristes. Ça n'est pas nécessairement qu'on diminue la sécurité dont les terroristes jouissent. Et c'est très très frappant parce que cette question de l'État comme tiers entre la liberté et la sécurité, c'est une question qui a été très bien vue par les révolutionnaires anglais de 1689, elle a été très bien vue par les déclarants américains, Jefferson et Hamilton, elle a été très bien vue par les rédacteurs de la Déclaration des droits, et compte tenu de la place symbolique très importante prise par l'État dans le système politique français, elle a fini par être légèrement oubliée. La vérité de tout ça, c'est encore plus à l'époque de l'interconnexion des fichiers, à l'époque du numérique et ainsi de suite, toute augmentation des prérogatives sécuritaires des pouvoirs publics aboutit simplement à la mise en place d'une société de surveillance par l'État. Et je trouve qu'il est quand même un tout petit peu temps de s'en rendre compte.
Un mot, Michael Fossel, de ce tiers oublié, quel État, quelle place lui accorder ? On a tendance à penser que l'État est là aussi pour préserver, protéger nos libertés. On a le sentiment d'un retour à un État, somme toute, assez paternaliste, qui redéfinirait autrement la liste de ces libertés, qui ferait une sorte d'inventaire de ces libertés qui nous seraient accordées. Quelle place occupe-t-il aujourd'hui dans cette nouvelle conception de la liberté qui est en train d'être mise en place ?
Ben évidemment, ce qui est un peu frappant, c'est qu'à mesure que la demande sécuritaire se fait de plus en plus pressante dans l'opinion publique, une forme, disons, de naïveté à l'égard des, non seulement d'ailleurs des États ou des administrations, mais aussi d'un certain nombre de grandes entreprises privées qui, elles, produisent ou plutôt récoltent sur nos vies des informations que nous n'aurions jamais admis de donner il y a encore quelques années, cette confiance, elle, augmente. Alors je crois que là, il faut rappeler que du point de vue de la pensée politique, on a fait une distinction, les libéraux d'ailleurs ont fait une distinction entre la sécurité et la sûreté. Et on dit souvent la sécurité c'est le premier des droits, c'est les droits de l'homme n'auraient pas de sens si la sécurité n'était pas garantie. En réalité le mot sécurité ne se trouve dans aucune des déclarations des droits de l'homme. Ce qui s'y trouve c'est le mot sûreté. Et la sûreté a toujours voulu, a toujours signifié, par contre chez Montesquieu déjà, les droits ou plutôt la protection de l'individu face à l'État. C'est-à-dire en réalité, être en sûreté, cela veut dire ne pas être sous, ne pas être menacé plutôt par l'arbitraire de l'État. Et on a une tendance aujourd'hui à sacrifier un peu, je crois, la sûreté à la sécurité, puisque lorsqu'on parle en revanche de sécurité, on entend la menace qui viendrait de l'ordre social lui-même ou de la société. Bon, et le terrorisme ici constitue le paradigme. Alors je crois qu'effectivement ici, il ne s'agit pas tellement d'ailleurs d'opposer sécurité et liberté, mais de voir qu'il y a un type de liberté, la liberté politique au sens, disons, de l'autonomie, qui implique, avant toute chose, que l'individu ou que le citoyen ne vive pas sous la menace d'entités étatiques ou non étatiques d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement, qui, bien qu'elles se présentent comme protectrices à son endroit, ne sont pas nécessairement spontanément favorables à ses droits.
Mais il y a beaucoup de dispositions restrictives des libertés qui sont aussi prises au nom de la sûreté de l'État, à croire peut-être que cette sûreté-là est supérieure à celle de l'individu.
Alors la sûreté de l'État, c'est l'ordre public. Alors si là, je vais me permettre de répondre avec Kant. Kant, en 1793, on est en pleine terreur révolutionnaire. Et évidemment, la plupart des intellectuels allemands qui avaient soutenu la Révolution française à ses débuts se sont retournés pour montrer qu'au fond, un peuple auquel on donne sa liberté du jour au lendemain, ça mène nécessairement à l'insécurité ou au désordre. Et Kant a cette belle théorie, je trouve, de dire qu'au fond, la thèse selon laquelle un peuple n'est pas mûr pour sa liberté, hein, c'est le grand argument pour refuser, encore aujourd'hui d'ailleurs, à des pays d'accéder à l'autonomie. Cette thèse selon laquelle donc les peuples ne sont pas mûrs pour la liberté, selon laquelle ça va mener nécessairement au désordre, est une thèse fallacieuse parce que le seul moyen, dit-il, de devenir mûr pour la liberté, c'est d'être mis en liberté. Et évidemment, les premiers essais, c'est un petit peu, si vous voulez, comme lorsqu'on éduque un enfant, ou lorsque d'ailleurs on apprend à un enfant à nager, il faut bien un moment qu'il saute à l'eau, avec le risque, bon, mieux vaut, je le dis tout de suite, qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse éventuellement lui venir en secours. Mais il y a bien un moment où l'exercice de la liberté mènera nécessairement à un désordre. Ce désordre-là, du moins dans la perspective d'une pensée radicale de la liberté, ce désordre-là est préférable, disons, à ce semblant d'ordre ou à ce semblant de sûreté qui se caractérise en règle générale par un étouffement des droits.
Question d'Antoine Mercier, maître nageur.
Encore faut-il être concerné par cette liberté, parce que vous citiez la fameuse thèse de Feuerbach sur transformer, interpréter, transformer le monde, donc il n'est plus temps d'interpréter le monde, mais de le transformer. L'idée que le monde soit à transformer par la pensée, par l'idée, par la politique, est-ce que ce n'est pas une idée qui a déserté le champ de la société et qui fait qu'on n'est même plus devant l'interrogation de savoir si on est libre ou pas, puisqu'on a passé cette étape, si je puis dire?
Alors l'idée selon laquelle, ou plutôt la croyance selon laquelle c'est la liberté qui transformerait le monde, ça je vous accorde volontiers qu'elle a, d'ailleurs pas forcément pour le meilleur, un peu déserté. Par contre, ce qui est toujours présent, c'est l'idée, ou plutôt le fait, que le monde est en perpétuelle transformation. C'est-à-dire qu'on a gardé au fond de l'idéologie ou de la croyance dans le progrès simplement le caractère évolutif ou quasiment révolutionnaire des transformations, sauf que le révolutionnaire en question s'est déplacé de la volonté des hommes vers la technique, par
exemple. Parce que le livre de Macron s'appelait « Révolution ». Précisément, si la révolution consiste à simplement assister à un déroulement inéluctable des techniques et de l'histoire, c'est pas tout à fait la même chose qu'une révolution qui consisterait à transformer une réalité.
Ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est tout de même la deuxième croyance naît de la première. C'est-à-dire, au fond, c'est une version mutilée de cette croyance fondatrice, disons, des Lumières et même du mouvement de l'idéalisme allemand qui suivra, selon laquelle la liberté, si on la met au centre de la philosophie, elle a une caractéristique, c'est que c'est une idée qui n'est pas dissociable de sa réalisation. C'est cette croyance selon laquelle, cette thèse d'ailleurs philosophique, selon laquelle dès lors que je sais que je suis libre, d'une certaine manière, je le deviens, parce que cette idée ne me quitte plus, ne me lâche plus en quelque sorte, jusqu'à temps qu'elle se réalise dans l'histoire. Et c'est vrai que chez Hegel, par exemple, on voit bien que cela mène à une philosophie de l'histoire comme une sorte de réalisation progressive ou de développement de l'idée de liberté. De cette croyance, et pour d'excellentes raisons d'ailleurs, nous n'avons pas retenu beaucoup de choses, si ce n'est l'aspect le plus discutable, c'est-à-dire le fait que l'histoire fonctionnerait comme une sorte de processus qui se ferait peut-être en faveur des hommes, mais dans le dos des hommes, et à l'aide, non plus cette fois-ci, de la conscience de la liberté, mais beaucoup plus par l'entremise de machines, de processus qui renvoient soit au marché, soit à la technique. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, urgemment, je crois d'ailleurs, c'est de savoir selon quelle modalité réintroduire un petit peu de liberté, un peu de choix, dans ces évolutions qui nous sont présentées généralement comme inéluctables. Et il me semble que cela passe en particulier par le fait de ne pas ou de ne plus en rester à une liberté strictement dépolitisée, c'est-à-dire celle, encore une fois, de l'individu qui entreprend et qui, d'une certaine manière, a, j'ai rien contre l'entreprise comme telle, hein, évidemment, mais j'ai quelque chose contre la réduction de la liberté à cette forme-là, parce que, évidemment, la liberté d'entreprendre, c'est une liberté qui va utiliser les machines à disposition, qui va se fonder ou d'une certaine manière même recouvrir le monde tel qu'il va, sans jamais se poser la question de son éventuelle transformation, non pas transformation des coordonnées du monde, mais transformation de l'orientation générale dans laquelle ce monde, ou vers laquelle ce monde se constitue.
Michel Fossel, philosophe en liberté, surveillé jusqu'à 13h30. Vous êtes bien sur France Culture et vous écoutez La Grande Table.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Quelle conception de la liberté prévaut aujourd'hui? On en parle avec vous à l'occasion de la parution de votre essai « L'avenir de la liberté de Rousseau à Hegel » au PUF, Michel Fossel. De quelle tradition libérale, notamment Emmanuel Macron, est-il l'incarnation? Pour ouvrir ce petit bout de discussion, retour au propos d'un de nos confrères, Brice Couturier, sur notre antenne, c'était hier. Ce que Macron a trouvé chez Ricoeur, c'est la théorie de l'homme capable, disait-il. Brice Couturier, auteur de « Macron, un président philosophe », publié aux éditions de l'Observatoire, il partage avec le nouveau président une passion Ricoeur et, dit-il, une tradition libérale de gauche.
Il y a une caricature qui est faite par les médias qui ne l'ont guère lue de Macron en président de start-up post-moderniste et américain. C'est pas du tout ça. Si vous le lisez un peu, il faut juste prendre la peine de le lire dans le texte. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui, en particulier, a une grande conception grâce à Ricoeur, grâce à sa participation au comité de rédaction de la revue Esprit, qui participe bizarrement de la génération antitotalitaire à laquelle il n'appartient pas. C'est quelqu'un qui a médité sur le mal, parce que Ricoeur est un des grands philosophes qui s'est posé la question du mal à une époque où on ne voulait pas la poser, où on pensait que le mal n'existait pas. Et grâce à Ricoeur et grâce à Esprit, il est l'héritier de cette génération des aveugles. Et c'est pour ça qu'il est européen. Il est européen parce qu'il participe de cette philosophie antitotalitaire. Il en est un héritier très direct. Donc il est faux de dire qu'il n'a pas la conception du mal et du tragique de l'histoire. Là où j'attends personnellement Macron, et c'est pour ça que je ne suis pas un amoureux transi, j'attends Macron à la prochaine grave crise. Et elle ne tardera guère. Et je me demande comment il réagira. À l'époque, à ce micro et dans ce contexte, je passais pour un zigoto. On me disait que mes idées n'avaient aucune chance d'aboutir. Et vous voyez qu'elles ont abouti, puisque finalement nous avons au pouvoir aujourd'hui un président libéral de gauche, avec une majorité libérale de gauche à l'Assemblée nationale, ce qui prouve que mes idées qui passaient pour aberrantes, n'étaient peut-être pas si minoritaires que ça, puisqu'elles sont arrivées à mettre au pouvoir quelqu'un qui est effectivement dans cette logique-là.
Michel Fossel, je rappelle que vous êtes vous aussi un spécialiste de Paul Ricoeur comme Emmanuel Macron. Vous avez notamment préfacé « Philosophie éthique et politique », ouvrage paru au Seuil. Et puis l'occasion aussi d'indiquer, l'apparition du nouveau numéro de la revue Esprit à laquelle vous collaborez. Paul Ricoeur, penseur des institutions justes. Alors ce libéralisme à la Emmanuel Macron, quelle idée de la liberté contient-il ?
En tout cas, une idée qui n'est pas forcément, qu'on ne peut pas forcément rabattre sur celle de Paul Ricoeur, pour le moins. Parce que l'une des conceptions centrales de Paul Ricoeur, c'est consistait tout de même à séparer le politique de l'économie et à marquer, disons, ce qu'il y avait effectivement, c'est le seul point avec lequel je rejoins ce que je viens d'entendre, une importance fondamentale au tragique de l'histoire que on ne retrouve pas. Il ne s'agit pas tant d'ailleurs d'Emmanuel Macron que de la politique générale qui est menée depuis plusieurs années en France, que l'on ne retrouve pas au fond dans cette forme de d'optimisme libéral, pour le coup néolibéral, consistant à penser, bon, vous en trouvez plusieurs figures dans l'histoire. Au temps de Rousseau, c'était la théorie du luxe, hein, c'est-à-dire au fond le luxe des riches paye le travail des pauvres, et puis on arrive maintenant au ruissellement ou à d'autres métaphores de ce genre, qui sont des métaphores ou des théories, enfin plutôt des métaphores d'ailleurs, qui ont cette caractéristique, même sans encore en juger la validité, d'être optimistes, puisque fondamentalement l'idée c'est que l'enrichissement d'une partie de la société nécessairement trouvera des effets de prospérité généralisée. Alors cette conception, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est une manière, disons, de dépolitiser la politique, puisque somme toute il suffirait d'accompagner un mouvement général au profit transformer disons un certain nombre de structures sociales. Alors ensuite, il est incontestable, puisque vous me posez la question sur Emmanuel Macron, que c'est un homme qui a des rapports avec la pensée, avec la philosophie, la littérature, et de ce point de vue-là, on ne peut que s'en féliciter.
Avec Ricoeur, vous avez l'air de vous agacer un peu ce lien qu'on fait toujours avec Ricoeur. Est-ce que vous pouvez nous dire vous êtes un spécialiste de Ricoeur, si vraiment vous voyez quelque chose qui pourrait être une application des idées de Ricoeur?
Je récuserais plutôt la question, si vous voulez, parce que pas la vôtre, hein, mais c'est le fait qu'on cesse de se poser la question de savoir si la politique qui est menée aujourd'hui est ricœurienne. Il y avait même un article dans Le Monde titré Emmanuel Macron met Paul Ricoeur, même pas les idées de Paul Ricoeur, mais Paul Ricoeur au pouvoir. Bon, Paul Ricoeur, s'il avait voulu le pouvoir, il l'aurait peut-être recherché. Il a pensé le pouvoir, il n'a pas cherché à l'occuper. Et du reste, il a toujours théorisé le fait que pour penser le pouvoir, il valait mieux s'en tenir éloigné, ce que un certain nombre de ses disciples ne font pas forcément aujourd'hui. Alors le problème n'est pas de savoir si la politique actuelle est ricœurienne ou pas. Cette question, à mon avis, n'a pas de sens. On peut l'évaluer en dehors, disons, de toute appréciation de nature philosophique. Qu'ensuite il y a eu d'ailleurs des liens personnels et intimes entre Emmanuel Macron et Paul Ricoeur, ça n'est pas, on ne peut pas le nier. Que sur des questions, disons, d'ordre plutôt à la frontière de la politique et de la morale, la question de l'identité, le national et la remise en cause un petit peu de ce prisme-là identitaire, il y a eu une influence sur les questions aussi de la mémoire historique, je ne le nie pas, mais il m'apparaît simplement aberrant de poser la question en termes, disons, de positionnement philosophique d'un président de la République. En plus, le philosophe roi, ça a généralement mené à des catastrophes. Parce qu'on voit très bien que, et moi je suis d'abord attaché, si vous voulez, à l'œuvre de Paul Ricoeur, plutôt qu'à la question politique gouvernementale. On voit très bien que ceux qui veulent valider la politique actuelle se réclament subitement, du reste, on vient de l'entendre, de Paul Ricoeur. Tandis que de l'autre côté, ceux qui considèrent que cette politique est abominable, en profite pour mettre Ricoeur sur la barque, la revue Esprit aussi d'ailleurs, pour considérer, en fait, selon une tradition très française, qu'il n'y a pas de hasard dans la politique, que les filiations expliquent absolument tout, les appartenances idéologiques. Il faut tout de même rappeler qu'il y a de la contingence dans les rencontres humaines et qu'on ne peut pas faire dire à un philosophe qui n'est plus là pour s'en défendre ou pour s'en revendiquer ce que seul lui-même aurait pu affirmer.
Est-ce que cette question de la liberté comme autonomie est aussi pour vous aujourd'hui, Michael Fossel, une ligne de fracture à l'intérieur des gauches? C'est ça qu'on essaye de comprendre, les différences de conception qu'on peut en avoir aujourd'hui, ceux qui ont trahi ce que pouvait être la conception de la liberté avant, sous Rousseau, tel que vous nous l'a rappelé dans cet ouvrage, et ce qu'il en est fait aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit vraiment une ligne de clivage autour de cette question de la conception de la liberté, la conception politique et de l'horizon qu'on lui donne?
Je crois, parce que seulement d'ailleurs par rapport au partage droite-gauche, mais même à l'intérieur, disons, de ces différents mouvements, parce que, bon, on ne peut pas dire que le mot liberté, du point de vue sémantique ou symbolique, se porte mal. Personne ne ferait une critique aujourd'hui de la liberté. Enfin, la philosophie est justement là pour se poser la question de savoir si, quand un terme est à ce point encensé, il n'y a pas quelque chose, c'est tellement flou qu'il y a un loup, dirait-on. Et effectivement, les sens du mot liberté sont équivoques dans le discours politique. Ils sont tellement divers qu'on a du mal à s'y retrouver. Alors, la tradition philosophique à laquelle je me réfère ici, du moins, c'est vraiment la conception de la liberté comme autonomie. Et je prends ce terme parce qu'il me paraît être, lui, spécialement galvaudé. On parle d'autonomie à tout bout de champ, l'autonomie de l'individu, l'autonomie de l'université.
C'est quoi précisément l'autonomie ?
Alors, ce n'est pas l'indépendance, comme on le dit souvent. D'ailleurs, on verrait même, avec le problème catalan, une sorte d'équivoque là-dessus. Est-ce qu'ils veulent l'indépendance ou est-ce qu'ils veulent l'autonomie ? L'autonomie, c'est Rousseau qui en a été le fondateur, même s'il n'emploie pas le terme, c'est l'acte par lequel un peuple devient un peuple. C'est, si on prend l'autonomie politique, c'est-à-dire le fait qu'être libre, ce n'est pas obéir à la loi, ce n'est pas faire ce que l'on veut, si l'on veut, ce n'est pas le libre arbitre qui est plutôt libéral, c'est obéir à la loi qu'on s'est prescrite. C'est-à-dire qu'il existe une loi, et dans le champ politique, c'est la loi voulue par le peuple, dont l'obéissance est la liberté. Alors évidemment, ça pose toute une série de problèmes. C'est une conception très ambitieuse de la liberté, puisque cela suppose que nous pouvons collectivement délibérer de ce que nous voulons et que cette loi s'imposera nécessairement à tous. Mais l'autonomie, ça n'est pas l'indépendance, parce que même on peut dire Rousseau a forgé un peu l'idée d'autonomie contre la réduction de la liberté à l'indépendance, parce que la réduction de la liberté à l'indépendance individuelle mène nécessairement à l'amour propre, à la concurrence généralisée. Et l'autonomie, c'est une manière d'être ensemble sur le mode de la volonté, si je puis dire. C'est-à-dire, nous voulons, que voulons-nous ? Nous voulons des lois qui constituent le contrat social, et dans cette manière d'être ensemble, fondée sur la loi commune, eh bien, se trouve le sens même de ce que c'est qu'un peuple.
Donc c'est ça qui manque aujourd'hui ? Ce que vous nous dites en Europe, et peut-être
certainement
aussi en Espagne ?
Parce que là, en Espagne, si on prend le cas espagnol, bon, on voit bien qu'il y a un conflit véritablement ici politique, ce pour le quoi d'ailleurs visiblement les institutions européennes ne sont pas en mesure tellement d'avoir le moindre avis, hein, sinon d'attendre que les juges départissent feront le départ entre les opposants. De quoi s'agit-il ? De savoir ce qu'est un peuple. Bon, et est-ce qu'il existe quelque chose comme un peuple catalan ou est-ce qu'il existe quelque chose comme un peuple espagnol incluant la Catalogne ? Pour répondre plutôt, c'est pas un problème qu'on peut résoudre, mais pour répondre, ou en tout cas tâcher de répondre à une question de cette envergure qui va d'ailleurs se poser aux quatre coins de l'Europe, hein, pas seulement en Catalogne, en Écosse bientôt, déjà en Belgique, il me semble qu'on ne peut pas en rester simplement à des aspects purement formels, juridiques, savoir si c'est la Cour constitutionnelle espagnole qui va décider. Il est préférable d'envisager une réflexion de nature constituante, institutionnelle, parce que qu'est-ce que c'est qu'appartenir à un peuple sinon vouloir appartenir à un peuple, et pas simplement selon sa langue, selon son ethnie, selon sa culture, se référer à des valeurs communes. Alors je crois que cette question de l'autonomie, pensée de manière politique et non pas simplement de manière territoriale, cette question de l'autonomie, non seulement elle se pose, mais il faudrait l'envisager avec le sérieux, pour le coup, et peut-être le sens du tragique aussi qui s'applique à elle.
Question qui pourrait se poser à toute l'échelle, à l'échelle européenne, et c'est ce que vous rappelez dans une tribune parue dans Libé, c'est qu'au-delà de la question des compétences, c'est vraiment aussi une question d'autonomie qui se pose aussi pour toute l'Europe. Si l'Europe ignore la crise catalane, c'est parce qu'elle est son miroir.
Elle est son miroir. Parce que la vieille question de savoir s'il existe ou s'il pourra, et il n'existe pas, s'il pourra exister un jour quelque chose comme un peuple européen est une question que l'on met un petit peu sous le tapis, alors qu'en réalité on voit bien, même si c'est sous une forme fédérale, que si l'Europe doit être une entité politique et pas simplement, je dirais, un ensemble de procédures gestionnaires, il faudra bien que l'on envisage l'identité européenne sous une forme, disons, politique, c'est-à-dire en posant la question de savoir si nous voulons la même chose et ce que nous voulons.
Merci beaucoup, Michael Fossel. L'avenir de la liberté de Rousseau à Hegel, parution juste là, au PUF, de votre dernier essai Réflexion autour autour de la conception, de nos conceptions de la liberté. Et puis je rappelle donc que le nouveau numéro de la revue Esprit vient de paraître. Paul Ricoeur, penseur des institutions justes. Voilà, c'est le numéro de novembre. Quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez nous écrire et nous podcaster en deux parties. Merci à toute l'équipe de la grande table qui a préparé et programmé cette émission, à la réalisation Perret Legras avec Élise Leu. À demain pour un retour sur l'œuvre de Rubens cette fois, et puis l'enquête syrienne de Justine Augier dans la deuxième partie de l'émission Prix Renaudot Essai.